C'est l'heure de l'émission Dialogue entre Congolais avec Jean-Claude Touba, Kamanga.
Merci, Tina Salama. Bonsoir. Face à face, Adolphe Mozito et les présidents des assemblées provinciales. C'était hier lundi à Kinshasa, le Premier ministre invite les assemblées provinciales à jouer pleinement leur rôle de contrôle sur les gouvernements provinciaux. C'est à la suite de leur échange qui a porté notamment sur les arriérés de 2 mois de rétrocession aux provinces et le budget 2010. Pourquoi cette interpellation du Premier ministre aux assemblées provinciales? Comment ces assemblées peuvent-elles jouer pleinement leur rôle? C'est le sujet au centre de ce débat. Nous accueillons comme invité Dédé Moulossa Kachamankoy, il est conseiller principal du Premier ministre en charge du Collège Finances, Banque et Monnaie. Monsieur le ministre, monsieur le conseiller, j'allais dire bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir également à tous les auditeurs de Radio Kassou.
J'ai failli dire bonsoir, monsieur le Premier ministre. Hein, il n'est pas là. Nous avons aussi François Kimasi Basaoula, il est président de l'Assemblée provinciale du Bas-Congo, et là, il intervient comme porte-parole des présidents des assemblées provinciales de la RDC. Bonsoir, monsieur François Kimasi.
Bonsoir, monsieur le journaliste, ainsi que tous les auditeurs.
De Radio Capi. Voilà. Vous, vous êtes au studio, donc le conseiller Dédé Moulossa et vous, François Kimasi. Mais vous me donnez CP Marco, lui, il est député national, mais aussi professeur d'université et constitutionnaliste. Et lui, il intervient au téléphone. Bonsoir, monsieur le député national.
Merci, merci. Donc, merci.
Voilà. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Pourquoi l'interpellation du Premier ministre aux assemblées provinciales, Adolphe Mozito, qui a reçu les présidents des assemblées provinciales, a d'abord discuté avec eux du paiement de 2 mois d'arriérés de rétrocession des fonds que les assemblées provinciales réclament au gouvernement central. Il s'agit des arriérés des mois de juin et juillet 2009. Et c'est justement pour ça que le Premier ministre a rappelé à ses hôtes qu'en jouant pleinement leur rôle, ils pourraient moins dépendre du pouvoir central. On écoute le Premier ministre Adolphe Mozito dans cet extrait recueilli sur la radio-télévision nationale congolaise RTNC par Alain Héron.
Vous avez des recettes propres, je crois 5 ou 6, donc c'est des recettes importantes sur lesquelles vous devez exiger de grands exécutifs, une grande mobilisation pour que vous ne soyez pas dépendant du gouvernement central. De manière générale, vous ne jouez pas, me semble-t-il, j'espère me tromper pour vous, vous ne jouez pas le rôle de contrôle. Nous, on subissons beaucoup de pression de nos assemblées, et c'est des bonnes guerres, elles font pression. Et c'est avec ça que nous mobilisons plus ou moins les 100% des ressources inscrites comme assignation à notre charge de la part de nos députés. Ils contrôlent, ils nous signent les cotes. On ne s'en plaint pas. Je crois que c'est grâce à eux qu'une union des quelques performances que vous constatez et sur lesquelles d'ailleurs nous faisons des rétrocessions sur vous. Donc j'ai l'impression que là, ça ne marche pas sur vous. Au lieu de faire pression sur l'exécutif, vous ne prenez pas suffisamment vos prérogatives, vous venez tout de suite au gouvernement central en disant vous n'avez pas libéré la quotité, chacun nous comprendra. Mais nous voulons partager avec vous une idée qui consiste à vous encourager à prendre vos prérogatives pour avoir un agenda en matière budgétaire et légale sur vos exécutifs.
Voilà, c'était là le Premier ministre Adolphe Mozito. Alors, François Kimasi, avant de revenir à cette interpellation, si on peut l'appeler ainsi, du Premier ministre Adolphe Mozito, d'abord, est-ce que votre échange avec le Premier ministre s'est bien terminé? C'est bien clôturé. Vous êtes satisfait?
Je pense qu'hier, vous avez assisté à la fin de la rencontre. Le Premier ministre est venu au devant de la scène et avec les présidents des assemblées provinciales, il a même posé avec un humour très détendu. C'est que la rencontre était très bien menée. Et nous nous sommes dit d'ailleurs que c'est la première fois que le Premier ministre a vraiment accorder aux assemblées un véritable échange de parole. Et nous avons été contents, nous le remercions pour cela.
Vous êtes contents? Ça veut dire que les arriérés de rétrocession vous sont maintenant payés?
Non, content, excusez-moi de faire un hiatus.
Allez-y.
Les présidents d'assemblées sont venus, pas nécessairement pour réclamer de l'argent.
Ouais.
Ils sont venus pour un point essentiel. Okay. Nous devons rédiger, élaborer le budget de l'année 2010 se pose beaucoup de problèmes. La Constitution a prévu que la troisième année de l'exercice, il y aurait des nouvelles provinces qui doivent être mises en chantier.
Mmh.
Or, prévoir, c'est guérir. C'est maintenant qu'il faut prévoir la gestion de ces provinces demain.
Donc, on fait allusion aux 26 provinces.
Aux 26 provinces. Et nous, en redisant le budget, fallait-il prendre en compte ces nouvelles provinces ou pas? C'est le premier ministre a dit que lors de la première conférence entre les gouverneurs des provinces et le président de la République, il a été donné l'option que oui, mais la province étant une entité autonome, jouissant d'une autonomie, c'est elle seule qui peut pouvoir réduire son budget. Donc, cela revient à ces provinces quand elles seront mises à chantier.
Là, c'est pour le budget 2010.
2010.
Voilà. Nous allons alors poser la question. Allez-y, terminez votre idée avant qu'on pose la question au conseiller directement.
Donc, le budget 2010 de ce que nous devons rédiger, d'ici deux semaines, je crois, le ministère concerné seront prêts pour donner la nomenclature et tout ce qu'il y a comme qui précède, et nous reviendrons pour discuter exactement du budget.
Voilà. Le président François Kimasi n'a pas répondu concrètement à la question en rapport avec les arriérés des rétrocessions de deux mois, conseiller de Moulossa. Est-ce que vous pouvez répondre? Est-ce que vous avez répondu au problème posé par les provinces, les assemblées provinciales?
Vous venez de me poser la question. Oui. La première, vous l'avez adressée à son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale du Bas-Congo, le patriarche François Kimasi. Exactement, pour recentrer le sujet, que la rencontre entre le chef du gouvernement, le président, le premier ministre Adolphe Mozito et le président de l'Assemblée provinciale n'a pas porté que sur la question de rétrocession ou de retard de rétrocession pour les deux derniers mois en cours, de l'année en cours.
C'est-à-dire juin-juillet.
Ça n'a pas porté que sur cela. Ça a porté sur un sujet assez important. C'était d'ailleurs le premier point que le président Kimasi a présenté à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, c'est-à-dire les orientations obtenues du gouvernement de la République, les orientations adéquate, indicative sur l'élaboration du budget pour l'exercice 2010. Parce que, comme vous le savez, la quotité de 40% des recettes à rétrocéder, à allouer aux provinces, doit être répartie soit entre 11 provinces, soit alors entre le 26. Il voulait avoir des précisions là-dessus pour que le gouvernement lève une option assez claire qui leur permettrait d'élaborer le budget en fonction de ces 26 ou des 11 provinces actuellement, parce que la Constitution a prévu un délai de 36 mois pendant la première législature où il faudrait que nous puissions passer au découpage de 11 à 26 provinces. C'est une question assez importante et le Premier ministre a été clair pour dire que c'est une question qu'il faudrait pas seulement résoudre au niveau du gouvernement, mais au niveau du gouvernement déjà. La question a été évoquée avec le gouverneur de province lors de la conférence de gouverneurs de 24 juin à Kisangani. Et l'idée était que l'on fasse une étude approfondie sur le coût du découpage.
Est-ce qu'on peut retenir, excusez-moi, monsieur le conseiller, est-ce que à ce jour, est-ce que l'option a été levée?
Bon, je crois que les études sont en cours. On ne fait pas de l'amateurisme. On veut être assez professionnel.
Oui.
C'est une indication, c'est une instruction, c'est une injonction de la construction de notre pays.
Oui.
Il faudrait que nous passions à ce stade-là de 26 provinces, mais il faudrait qu'on en connaisse le coût exact, le coût pour la mise en place de nouvelles institutions provinciales,
oui.
Les 15 nouvelles provinces,
oui.
Également le coût lié aux
infrastructures pour assurer une viabilité à ces nouvelles provinces.
Oui, avant de passer la parole à Vondoye Tepemakon, qui est aussi en ligne, juste peut-être rapidement, monsieur le conseiller de Démolossa, est-ce que oui ou non, vous avez répondu aux besoins des provinces sur les arriérés de 2 mois de rétrocession?
Bon, là, vous revenez sur un sujet purement secondaire qui a été certes abordé par le président de l'Assemblée provinciale devant le chef du gouvernement, oui. Pour dire que les arriérés de 2009, donc juin et juillet, oui. il y en avait d'autres également qu'on a abordés, oui. Les arriérés pris comme tels par les provinces
pour 2008,
voilà, et le premier ministre a instruit assez directement, parce que à cette réunion était également convié le ministre du budget, également le ministre des finances, présenté par son vice. Je voudrais terminer, ne soyez pas pressé d'obtenir ma réponse, et je voudrais qu'elle soit complète, la plus complète, qu'elle soit présentée
de manière
plus complète.
Le temps n'attend pas. Hein,
voilà. Donc, pour dire que pour les arriérés, l'instruction a été donnée pour qu'avant la fin de cette semaine, que l'on puisse débloquer les arriérés, s'il faut appeler ça comme ça, de juin, et que le mois de juillet, mois de juillet, dans les prochaines semaines, voilà. Au courant du mois d'août, on pourrait libérer la rétrocession pour le mois de juillet. Mais aussi, l'instruction a été donnée
pour que je termine
mon idée.
Depuis longtemps, vous êtes encore dans le débat.
Voilà.
Donc, vous ne pouvez pas tout
dire. Également, vous ne l'avez pas souligné, également, pour qu'on puisse mettre en place, l'instruction, le premier ministre a insisté, pour qu'on puisse mettre en place un mécanisme automatique de libération de la rétrocession. Oui. C'est une option qui avait été levée lors de la conférence de gouverneurs, qu'on mette un ordre de paiement permanent à la Banque centrale pour assurer un paiement régulier et assurer un minimum de fonctionnement aux institutions provinciales. Donc, je voulais présenter la chose de cette manière-là.
Ouais. Voilà. Alors, professeur et député national, Vondoye Tepemakon, votre avis sur cet échange, Premier ministre, les assemblées provinciales et son interpellation?
Je crois que le problème est sérieux, très sérieux, parce que lors de la conférence des gouverneurs, effectivement, ils ont trouvé une solution provisoire pour résoudre ce problème de 40%. Bon, je crois que je comprends le conseiller, le gouvernement a raison, parce que le problème est très complexe, très difficile. C'est-à-dire, la Constitution est claire. Pour la Constitution, eh bien, la part des recettes à caractère national allouées aux provinces est établie à 40%. Et 40% doivent être retenus à la source. Ça, c'est la position de la Constitution. C'est clair là-dessus. Évidemment, tout le monde sait que la mise en application de cette disposition constitutionnelle pose énormément de problèmes. Il faut le reconnaître. Ça, c'est vrai. Il ne faut pas non plus raconter n'importe quoi. Ça, c'est vrai. Alors, le gouvernement, lors de la conférence des gouverneurs, ils ont prévu une solution, disons, provisoire. Parce que gouverner, c'est prévoir. C'est vrai. Mais ça pose un problème réel. Ce qui a élaboré cette constitution, ce n'est pas la faute du gouvernement. Disons, le gouvernement doit appliquer la constitution. Bon, bien sûr, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Le Parlement, dans la loi sur la libre administration, avait demandé que lorsque la Constitution, la loi sur les 31, la Constitution actuelle, la loi sur la libre administration, avait prévu qu'à la date du 31 août, eh bien, le gouvernement devait élaborer un calendrier d'installation des nouvelles provinces. C'est-à-dire que ça a été dit clairement, c'est qu'un article 75 de la loi sur la libre administration avait prévu que dans le mois qui suit la promulgation de la constitution de la loi sur la libre administration, le gouvernement devait élaborer un calendrier d'installation des nouvelles provinces. Mais à ma connaissance, l'Assemblée nationale, jusque-là, n'a pas été saisi, n'est-ce pas, de ce calendrier-là. Donc, ce calendrier n'a pas été abordé. Alors maintenant, même dans la constitution, dans l'élaboration de la nouvelle loi de finances pour l'année 2010, eh bien, je crois que nous attendons, au niveau de l'Assemblée nationale, qu'on puisse nous proposer, n'est-ce pas, le calendrier de l'installation des provinces. Mais soyons réalistes. Quel est le délai qu'il fallait respecter? Ce délai de 36 mois a été fixé à partir de l'installation du Sénat, c'est-à-dire depuis le 14 mai 2007. Mmh. Donc, en réalité, à partir du 14 mai 2010, eh bien, bientôt, le délai va expirer. Alors, bon, je sais que la question sera dure lors de l'Assemblée nationale. Ça sera question dure. Mais soyons réalistes, hein, je crois que le gouvernement ne sera pas en mesure, n'est-ce pas, de respecter ces délais.
Voilà.
Donc, nous sommes obligés, nous sommes obligés, qu'on ne le veuille pas, et de réviser la Constitution. Il faut dire la vérité. Il faut que les gens le sachent dès maintenant.
Bon. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore, mais on va y revenir.
Oui, on va y être bon. Alors, je crois que, donc, je crois que juste ici, en résumé, le gouvernement a raison d'avoir trouvé une solution intermédiaire, parce qu'en réalité, les provinces ont raison. Elles ont raison d'exiger. Mais, face à la réalité, on ne peut pas faire autrement. Tant qu'on n'aura pas remboursé le sac d'endettement extérieur, comment voulez-vous, n'est-ce pas, déjà appliquer correctement cette disposition constitutionnelle? Voilà la réalité.
Alors, Président François Kimassi, je vous vois secouer la tête, ça vous tourne bien quoi?
Non, l'honorable Gondor a très bien parlé, il est constitutionnaliste connu, et nous apprécions d'ailleurs, si nous parlons aujourd'hui de décentralisation, je crois qu'il est le père de la réflexion. Il a lutté, il a orienté.
Il a beaucoup apporté.
Et même quand on était bloqué, on recourait à son expérience et il a décanté beaucoup de situations. Mais aujourd'hui, le problème qu'il y a, c'est qu'une constitution a été votée. Si le gouvernement doit agir de manière à tirer la révision de la constitution, nous sommes partis pour la gloire.
Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire que la Constitution doit être respectée intégralement telle qu'elle a été élue par le peuple.
Voilà. On n'en est pas encore là, c'est pas le sujet.
Non, je réponds au député national. Je crois que si je donne déjà un quitus favorable au gouvernement pour tirer sur la Constitution, nous aurons peur.
C'est pourquoi je préfère qu'on referme cette parenthèse de la Constitution. Vous savez que ailleurs en Afrique, c'est un sujet qui fait un peu peur. Mais, monsieur le président de l'Assemblée provinciale du Bas-Congo, je rappelle que vous parlez au nom de tous vos collègues, hein, présidents des assemblées provinciales. Et juste une petite question. Il semble que, lors de l'échange avec le Premier ministre, vos collègues du Kasaï occidental, du Katanga et du Sud-Kivu n'étaient pas là. Est-ce que vous pouvez dire pourquoi?
Il n'y a de honte pour personne. D'abord, il y a eu un calendrier assez bousculé. Et le collègue du Katanga venait de rentrer le même jour que nous venions. Donc, matériellement, il était impossible de venir. Les deux autres provinces qui sont pas là, n'étaient pas là. Par exemple, le nord et le sud qui vous comprenaient les situations dans lesquelles ils se trouvent, matériels. Ils n'ont pas pu. Ils ont prendre plusieurs avions.
Tout à fait.
Le retard de 4 mois signifie que les caisses des assemblées sont sèches.
Voilà, elles sont sèches, mais revenons maintenant à cette interpellation du Premier ministre. Et il vous a quand même interpellé, vous ne jouez pas votre rôle.
Le Premier ministre, effectivement, nous a démontré magistralement que les assemblées ne semblent pas, disons, mettre en exergue un de leurs pouvoirs de contrôle de l'exécutif.
Est-ce que vous êtes d'accord avec lui?
Du point de vue qu'il a abordé, lui, il recommande, lui, il est l'exécutif, il voudrait que les assemblées fonctionnent normalement dans leur exercice de contrôle aussi pour permettre aux exécutifs de, Parce qu'à ce jour, ce qu'il a constaté, c'est qu'en fait, les assemblées ou les provinces ne vivent que de la monnaie du gouvernement central. Et que les taxes prélevées localement, qui n'entrent pas en ligne du compte des 40%, parce que les taxes locales sont de 6 à 100% appartenant aux provinces. Et le premier s'interroge pour dire, mais ce budget-là profite à qui? Parce que quand les assemblées disent que dans certaines provinces, les gouverneurs n'interviennent pas, alors quoi? Le premier ministre dit non. Il y a les finances des provinces sont différentes des finances du gouvernement central. Et les dotations qu'on donne doivent être complémentaires et du budget local et du budget revenant du gouvernement central.
Oui.
C'est là qu'il a dit qu'il ne semble pas que les provinces ont pris réellement le. Donc, je pense effectivement, nous acceptons la recommandation, la remarque, mais on ne peut pas fonctionner dans le vide. Les instruments de travail qui doivent permettre aux provinces d'acquérir cette fameuse autonomie financière, même administrative, ne sont pas là.
C'est quoi ces instruments?
Par exemple, avoir une fonction publique provinciale pour administrer les provinces. Engager des fonctionnaires. Hier, par exemple, il y avait une discussion où on dit les assemblées doivent engager. La Constitution dit l'Assemblée provinciale engage ce fonctionnaire. L'interprétation du Premier ministre dit non, c'est l'exécutif qui engage et qui met à disposition. Alors là, ça reste à dire. Mais concernant la gestion des finances, effectivement, on a eu des taxes à quoi? Dans certaines provinces, l'organisation où, pour pouvoir glaner ces taxes n'est pas encore mise à jour. Ou s'ils ont commencé à être à jour, comme par exemple Kinshasa qui a la REP, qui a la DGLK, il va qu'on vient de mettre la repère, il faut engager le personnel, il faut les former parce que c'est un domaine technique.
Ça prend du temps.
Donc, ce n'est pas aujourd'hui que les provinces arriveront réellement à mettre à avoir le contrôle sur les taxes locales. Et à ce stade-là, certaines positions ambiguës de certaines entreprises qui préfèrent verser sur ça leur contribution que provinciale qui est une promiscuité et qui doit avoir le contrôle facile.
Là, vous parlez de la DGI, par exemple.
Par exemple.
Direction générale des impôts.
Oui, alors ils préfèrent régler tout avec Kinshasa, c'est loin, c'est fini, alors que nous, tout près, on a tous les loisirs de pouvoir aller voir si effectivement les chiffres qu'ils offrent sont fiables ou pas.
On va revenir à vous, Président François Kimassi, Monsieur le Conseiller Dédé Moulossa, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ce que vient de dire le Président François Kimassi sur le manque d'instruments de travail pour que, notamment, la fonction publique soit fonctionnelle?
Oui, merci, monsieur le journaliste, encore une fois. Mais je voudrais d'abord revenir sur la réaction tout à l'heure du professeur Rondo Etemako et le patriarche Kimassi a dit qu'il était le père, l'initiateur, en fait, de l'idée que le Congo puisse assez rapidement s'adapter, adapter sa gestion sur un mode décentralisé de ses finances et de son pouvoir. Et que le processus, on l'a initié depuis 1982, c'était plus ou moins en même temps que la France, qui est un pays qui est quatre fois moins étendu que le Congo, rentre également dans le même processus, et jusque présent, ils sont en cours, et nous n'avons pas effectivement démarré, mais le démarrage a été plus effectif avec l'impulsion du chef de l'État, président de la République, en 2007. Où on a pris le courage de faire en sorte que l'on puisse retrousser une part importante de ressources de l'État aux provinces pour leur permettre de viabiliser leurs institutions, les nouvelles qui venaient d'être en place. Et les difficultés se situent à deux niveaux principalement pour ces 40%. C'est d'abord au niveau que les provinces n'ont pas le même degré, le même niveau de développement. Deuxièmement, la répartition des charges n'a pas été très bien équilibrée par, s'il faut suivre, l'esprit et la lettre de la Constitution. D'où le problème que l'on connaît actuellement. Mais un effort a été fait. Et je vous donne les chiffres, moi j'aime bien les chiffres, que depuis 2007 jusqu'à ce jour, il y a eu sur un budget de plus de 4 milliards 800 millions de dollars exécutés depuis 2007, 2008 et la moitié de 2009, qu'il y a plus ou moins 1 milliard 200 millions de dollars de contre-valeur de ressources transférées pour prendre en charge en partie, 60%, pour prendre en charge les dépenses à compétences exclusives des provinces, les rémunérations des secteurs de l'enseignement primaire et secondaire, de la santé, de l'agriculture, des autorités coutumières, mais aussi prendre en charge, financer le fonctionnement des institutions et également assurer un minimum d'investissement dans nos provinces.
Mais pourquoi ne pas les doter d'instruments qui leur permettent
de... S'il vous plaît, la question est très importante. Vous avez fait appel au professeur Vundawe, qui est un spécialiste en matière de construction de notre pays, une sommité en fait, et une sommité également, c'est une expérience qu'on y continue assez importante, et donc il faut donner toute la lumière, parce que cette question-là, on a l'impression que c'est une question assez simple, qu'on peut résoudre sur simple coup de baguette magique.
Je vais un peu concis aussi, regardez la montre, le temps suit.
J'y arrive. Donc, ça c'est la première chose, les difficultés se trouvent à ce niveau-là. Et au niveau de découpage, je l'ai dit ici, c'est un niveau au coût financier et également au coût en ressources humaines qui pose un certain nombre de problèmes parce qu'il faut assurer un minimum d'infrastructures pour que ces nouvelles provinces puissent fonctionner. Quant à la question, à la réaction par rapport au patriarche François Kimasi sur la recommandation, l'instruction, je dirais même l'instruction parce que le Premier ministre a été assez vite là-dessus pour dire prenez-vous, comme c'est prendre en charge,
jouez
pleinement le rôle de contrôler l'exécution, l'élaboration, la préparation, l'exécution, la gestion du budget, des budgets de vos provinces, parce que vous êtes l'autorité budgétaire de province. Prenez cela en charge, parce que le Premier ministre, lorsqu'il était encore ministre du budget, a même pris l'initiative pour que dans la part des rétrocessions aux provinces, qu'une part soit mise de côté pour qu'on l'oriente directement au fonctionnement et aux rémunérations des membres des institutions provinciales. Donc, il était là en train de faire le bilan avec eux pour dire il faudrait qu'on améliore, parce que le gouvernement vous a donné les moyens de vos politiques, il faudrait que vous alliez de l'avant.
Voilà.
Parce que sur un budget de 298 milliards pour cette année de province, on réalise même pas 10% de ressources, on ne mobilise pas suffisamment. Il y a, c'est vrai, c'est le problème de d'articulation des services au niveau de province qu'il faudrait régler. Je reprends l'idée du professeur Vundawe qui disait que c'est une question très importante, elle est difficile, elle est technique, elle n'est pas seulement politique, et qu'il conviendrait qu'on y aille tout à fait provisoirement. Il ne donne pas les cutus au gouvernement, le gouvernement ne dit pas qu'il ne va pas procéder au découpage, il dit qu'il faudrait qu'on fasse des analyses profondes et qu'on évalue le coût financier des coûts en ressources humaines pour qu'on puisse établir un calendrier qui pourrait tenir d'ici le 14 mai 2010.
Voilà. Avant de repasser la parole au professeur et député national Vundawe Tetemako, une question qui vous est peut-être adressée, monsieur le conseil, je vais vous demander d'être vraiment bref, c'est Albert Izombo de Kindu. Il se demande pourquoi cette interpellation du Premier ministre juste quand les présidents des assemblées provinciales réclament leurs arriérés de rétrocession.
Ouais, il faut dire à votre auditeur que le Congo est dans une phase de démocratisation et qu'il conviendrait qu'on apprenne à faire la politique autrement. Sous l'impulsion du chef de l'État et également sous l'impulsion du Premier ministre, il est important que les échanges s'établissent.
Voilà.
Et c'était l'une des recommandations de la conférence de gouverneurs du mois de juin dernier pour éviter justement qu'il y ait de malentendus.
Ouais.
Entre. Et c'est important qu'il y ait des échanges entre les institutions à ces deux nouvelles, à ces deux échelles du pouvoir, dont les provinces et également le gouvernement central, et très bientôt entre le gouvernement central et les ETD, c'est important de le dire.
Entité territoriale décentralisée. Professeur Vundawe, député national, vous pensez que c'était justifié cette interpellation, mais le conseiller d'aider parle d'instruction du Premier ministre au président des assemblées provinciales.
Ben, je crois que le Premier ministre avait raison d'interpeller les assemblées provinciales, une façon de les rappeler à l'ordre et tout ça. Mais je crois qu'il ne faut pas que le gouvernement se limite simplement à interpeller, n'est-ce pas, les assemblées provinciales. Est-ce, on n'a pas de preuves que ce sont les assemblées provinciales qui ont détourné l'argent pour les ETD. Et je crois que la meilleure façon, c'est de faire ceci. Il y a des autorités compétentes. Eh bien, si on estime que les assemblées provinciales, en complicité avec les gouverneurs, auraient, je dis bien auraient, détourné l'argent, eh bien, je crois qu'il y a quand même une cour des comptes. La cour des comptes existe. Si au niveau central, vous avez aussi au niveau du pouvoir central, ils ont la direction générale des finances. Donc, je dis qu'il y a la Cour des comptes, parce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, je crois que nous serons obligés de faire appel à la Cour des comptes pour aller vérifier s'il est vrai que les assemblées provinciales, en complicité avec les gouverneurs, auraient détourné l'argent.
Mais je pense que
l'Assemblée nationale avait déjà, sous le mandat de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Kabiré, n'est pas mis en place des commissions de contrôle. Et malheureusement, depuis lors, avec des changements intervenus, l'Assemblée nationale n'a pas pu faire ce travail dans ce délai.
Oui.
Mais je crois que le plus important, c'est que qu'on se limite pas seulement à interpeller les assemblées provinciales, en soupçonnant comme si elles auraient détourné l'argent, etc. Je crois qu'il y a des organes compétents pour contrôler.
Ouais,
donc, je dis, il y a la Cour des comptes et la Direction générale des impôts pour faire une sorte d'audit pour vérifier si ça a été dit, c'est vrai ou pas.
À voir la réaction des deux autres invités qui sont au studio, le conseiller Dédé Moulossa et François Simassi, président de l'Assemblée provinciale du Bas-Congo, et porte-parole des assemblées, des présidents des assemblées provinciales de la RDC. Il semble que le Premier ministre Adolphe Moulito n'ait pas parlé de détournement ni de soupçon. C'est juste que, si je peux peut-être parler à votre place, excusez-moi, pour le professeur Boundaré, c'est que le Premier ministre aurait juste, se serait plaint de la faible mobilisation de la RDC. Je les vois, ils sont d'accord avec moi. Oui, professeur Boundaré. Pour terminer, c'est pour recadrer,
Je n'ai pas dit qu'il y a eu des tournements. J'ai suivi, je n'ai pas dit que le Premier ministre l'a dit.
Oui.
Non, le Premier ministre a interpellé les assemblées provinciales pour leur niveau faible, l'état de mobilisation, etc.
Voilà.
Mais il n'y a pas de Premier ministre. Il y avait, par exemple, des ONG qui ont raconté certaines choses.
Ouais, là, vous parlez de la
Ligue. Donc, comme le Premier ministre a saisi cette occasion pour rappeler aux assemblées provinciales de mobiliser davantage les recettes. Mais je crois qu'à cette occasion-là, eh bien, je crois qu'il faudrait qu'on puisse faire une sorte d'audit pour voir pourquoi les assemblées provinciales ne mobilisent pas suffisamment. Est-ce au niveau des assemblées provinciales ou au niveau du gouvernement provincial? Voilà, il faudrait. Donc ça, c'est la balle dans le camp, n'est-ce pas, disons, des assemblées provinciales.
Alors,
au niveau national, nous estimons que, parce que la question a été soulevée,
oui,
il faudrait qu'à tout prix, qu'au niveau de l'Assemblée nationale, qu'on puisse quand même, au niveau de la, envoyer une commission, au niveau de la, demander à la Cour des comptes d'aller vérifier si oui ou non, et ce qui est dit, c'est vrai ou pas.
Oui, donc là, je sens que ça vous donne une.
Donc je ne dis pas que je ne mets pas que le Premier ministre l'a dit.
Oui.
Non, le Premier ministre n'est pas à interpeller les assemblées,
oui,
mais je dis cela en rapport avec d'autres déclarations, c'est-à-dire ONG, etc.
Oui.
Voilà.
Oui. En interpellant les assemblées provinciales, c'est constitutionnel, voilà, ce que le Premier ministre a fait. Professeur Boudon.
Oui, il a bien fait, le fait d'avoir interpellé les assemblées provinciales. Et les assemblées provinciales, je crois qu'il a raison. C'est bon, il est le responsable du gouvernement, le pouvoir central. Il est normal que dans le cadre de collaboration entre le pouvoir central et les provinces, que le Premier ministre puisse quand même intervenir, pas pour pouvoir rappeler aux uns et aux autres leurs devoirs vis-à-vis de l'État. Je crois que c'est... Je crois que le Premier ministre avait raison de le faire.
Voilà.
Il n'a pas de collaboration. Il n'a pas des injonctions à donner aux assemblées provinciales.
mais il a le droit de les rappeler à l'ordre pour dire que, écoutez, s'ils ne veulent pas votre travail, vous le faites, etc. Je crois que j'ai compris le discours de
Premier ministre. Voilà. Et je vois François Kimassi qui veut parler, mais donnez-moi juste le temps de rappeler aux auditeurs. Je vais vous redonner la parole, François Kimassi. Juste rappeler à ceux qui nous suivent que nous parlons du face-à-face Adolphe Mouzito et le président des assemblées provinciales. C'était hier lundi à Kinshasa. Le Premier ministre invite les assemblées provinciales à jouer pleinement leur rôle de contrôle sur les gouvernements provinciaux. Alors, comment ces assemblées provinciales peuvent-elles jouer pleinement ce rôle? On en parle tout de suite.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Professeur François Kimassi, pas professeur, hein, vous êtes président. Alors, président.
Je crois que la dernière phrase du
professeur
Bundao rectifie les choses. Le Premier ministre n'a pas donné d'injonction, il a fait des recommandations. Et je crois que nous avons accepté de bon cœur. Et pour dire d'ailleurs, comme j'ai dit tantôt, que l'approche d'hier était excellente, nous avons bien échangé en ruant les uns des autres. Et d'autant plus que hier, quand il s'agit de rencontrer le Premier ministre et nous, on croyait même qu'il y avait une inimitié personnelle entre François Kimassi et le Premier ministre actuel. Il n'en est pas question. Hier, il n'y avait plus cet ombrage de quoi. La recommandation était vraie. Et le Premier ministre disait: autant vous faites recours
au pouvoir central,
autant les ETD doivent être pris en compte et doivent faire recours à vous. Et vous, est-ce que vous contrôlez les gouverneurs dans la gestion des ETD? Bon, nous avons en tout cas reconnu que le langage, c'est celui-là, que nous avons le droit du contrôle, que dans certaines provinces, comme chez nous, c'est fait. Nous avons fait le contrôle qu'il fallait au gouvernement. Nous savons comment le gouvernement peut décider. Nous savons là où il faut rectifier. Donc, cette recommandation entre en ligne de compte.
Puisque vous en parlez, c'est où qu'il faut rectifier? À moins que ce soit un secret entre vous et le gouvernement provincial.
Bon, la rectification était que, disons, l'Assemblée doit savoir exactement si les affectations qu'on fait aux ETD répondent aux réels besoins des sites. Parce que, qu'est-ce qu'on a constaté? Le gouvernement provincial mène les actions dans un secteur donné. Et dans l'affectation qu'ils disent, nous avons réalisé ceci, au lieu de vous donner 10, moins la réalisation, c'est fait. Non. Nous disons, ce qui est réalisé aux ETD, remettez aux ETD et demandez aux ETD aussi de se conduire à ce que. Ils ont l'impression d'une faire qu'attendre l'argent et qu'ils ne réalisent pas les recettes. Donc nous contrôlons ces ETD pour qu'ils puissent apprendre à réaliser les recettes. Donc ce que nous recommandons, nous demandons au gouvernement central, nous devons veiller à ce que les ETD arrivent aussi à percevoir ce qui leur est dû pour le fonctionnement. Et là, c'est là-dedans où le Premier ministre a fait des recommandations pour veiller à tout ça et contrôler.
Voilà. Ça, c'est pour les entités territoriales décentralisées. D'abord, je vais laisser le Conseil d'aider réagir par rapport à cette rectification, hein, comme le reconnaît le président François Kimassi. Pour la première fois, vous dites que vous n'êtes pas en contradiction.
Aujourd'hui, nous ne sommes pas en contradiction.
Voilà. Vous êtes beaucoup plutôt conciliant.
On retrace ce qui a été.
Voilà.
Bon, mais je crois qu'il est toujours bon d'être en contradiction. Ça permet de faire des avancées assez importantes pour notre jeune État. Ce qu'il faudrait dire à ces propos
par rapport au contrôle des assemblées provinciales, est-ce que tel qu'il est dit, François Kimassi, se limiter à voir ce que perçoivent les ETD, qui devraient pas seulement attendre l'argent, mais réaliser aussi certaines actions. Vous pensez que ça suffit, conseiller Dédé Moulossa?
Je réponds à la question en même temps que je réagis tout à l'heure aux indications, à la déclaration de l'honorable Vundaoué, pour dire que le Premier ministre était bien dans son rôle d'interpeller les assemblées provinciales en tant que chef du gouvernement, également chef de la politique, qui conduit la politique l'ensemble de la politique économique, financière et monétaire de la République démocratique du Congo. Il était dans son rôle d'interpeller pour et que les assemblées puissent prendre conscience du rôle des prérogatives constitutionnelles qui leur sont dévolues en matière de contrôle de finances de l'État au niveau des provinces. Parce que nous ne sommes pas ici dans un État fédéral, même si on y était, mais il serait dans son droit, n'est-ce pas, d'interpeller les assemblées pour qu'ils assurent un contrôle à deux niveaux. Le contrôle non seulement de l'utilisation des fonds transférés par le gouvernement central dans les cas de 40%, oui, mais également le contrôle de l'utilisation des transferts de ces 40% pour 40% également aux ETD. Mais également le contrôle sur la mobilisation des recettes propres, dont 40% également de recettes dites d'intérêt commun qui doivent être transférées aux ETD pour assurer également aux ETD une viabilité de leurs institutions. Oui. C'est très important également parce que il a la responsabilité de s'assurer de la bonne utilisation des ressources de l'État à tous les niveaux, à tous les niveaux, également à toutes les échelles du pouvoir, que ce soit au niveau central, au niveau provincial, que au niveau local. C'est important de le préciser. Et lorsqu'on on peut débattre éternellement si c'est une instruction, si c'est une recommandation, mais j'insiste, le Premier ministre, dans son rôle de chef de gouvernement, de celui qui conduit la politique de gouvernement, il était normal qu'il puisse interpeller que les gens, que l'on mobilise, parce que c'est lui qui présente à l'Assemblée nationale, au Parlement de la République, le budget de l'État, qui lui comprend le budget des ETD, entités territoriales décentralisées, le budget des provinces et également le budget du gouvernement central.
Et c'est lui qui le défend aussi. Alors, on va passer à d'autres réactions des auditeurs. Il y a Albert de Kisangani, province orientale. Lui, il est d'accord avec le Premier ministre, car certaines assemblées provinciales ont peur de contrôler les gouverneurs. Et pourtant, ce sont ces assemblées qui ont voté ces gouverneurs et non le contraire. Jacques Makwela nous écrit de Mbanaka, il est du même avis, et dit ne rien voir de visible de la part de ces assemblées provinciales. Il cite le cas de celle de l'Équateur qui, d'après lui, excelle dans des actions négatives. Professeur Vundawe, vous pensez que les assemblées provinciales ont peur d'exercer le contrôle, notamment sur le gouverneur. Nous sommes presque à la fin de l'émission, je vais vous demander vraiment d'être bref, professeur.
Ben, je crois que je n'ai pas de faits précis à présenter, mais je constate d'après la presse, hein, ce qu'on apprend. Mais je ne peux pas vous dire que si les assemblées provinciales jouent le rôle correctement vis-à-vis aux gouverneurs de province, etc. Non, je ne peux pas le dire parce que je n'ai pas de preuves à l'appui, etc. Mais j'estime, je constate que dans les faits, les assemblées provinciales sont dans des conditions difficiles. Parce que souvent, quand ces assemblées provinciales n'ont pas de moyens, prenons le cas de l'Équateur, par exemple, eh bien, si l'assemblée provinciale n'a pas de moyens pour contrôler, souvent, elle est dans une situation difficile. Elle dépend un peu plus du gouverneur. Et quoi que ça, c'est une situation, il faut donner une certaine, la dotation à la disposition des assemblées provinciales, doit permettre au président de l'Assemblée provinciale de disposer de sa juste autonomie et de liberté de pouvoir contrôler facilement le gouvernement provincial.
Merci.
Là, je crois que je n'ai pas d'éléments précis, mais je pose les principes.
Voilà, professeur, nous pouvons prendre ça comme votre conclusion parce que c'est pratiquement la fin, mais puisqu'il nous reste encore quelques secondes pour François Kimasi, il y a Pacifique Baguma Kaboy de Goma, lui pense que les assemblées provinciales joueront pleinement leur rôle si et seulement si leur autonomie était respectée. Président,
effectivement, nous dépendons, disons, des assemblées provinciales. On se blesse réellement que, pour au point de vue de l'argent, ils doivent recourir sur le gouverneur. Ça, il y en a. Mais je crois que, d'une façon générale, le reproche qu'on fait partout, je l'entends moi-même, on dit, les assemblées, vous ne faites rien.
Oui.
Pour le commun des mortels, c'est que le député doit construire les routes, doit construire les écoles.
En un mot,
nous devrons obtenir un mode survivendi pour améliorer la situation pour les assemblées.
Voilà, un mot, au conseiller Dédé Moulossa, vraiment un mot, parce que c'est vraiment la fin. Enfin, un mot, s'il vous plaît.
Le mot, c'est le changement
oui.
dans le mode de gestion de notre cité, de notre pays, Et ce changement est là, en chiffres, plus ou moins 1,2 milliard de dollars de contre-valeur transférés aux provinces.
Merci.
Le gouvernement de la République est en droit de s'assurer de la bonne utilisation de ces ressources.
Merci beaucoup. Merci à vous et à tous les autres invités. C'est la fin de cette émission. Jean-Noël Mokondo était à la technique, réalisation de Alain Hirong, assisté de Céline Côté, Samuel Kachak, Jean-Claude Toumba Kamanga devant ce micro. Merci de nous avoir suivis.